Et c'est ce mardi 24 septembre au cinéma Le Parc à Liège qu'aura lieu l'avant-première du film Le Chant de la Fleur, un documentaire de Jacques Deschamps et José Kalingua. C'est un film qui parle en fait de la résistance qu'oppose une communauté d'Indiens d'Équateur à la voracité des compagnies pétrolières. Et pour en parler maintenant dans Et Dieu dans tout ça, eh bien nous avons le plaisir de recevoir Jacques Deschamps. Bonjour.
Bonjour.
Jacques Deschamps, on va peut-être commencer alors très simplement par votre film, dont le titre Le Chant de la Fleur est un peu énigmatique. C'est un titre très poétique, mais en fait, ça dit quelque chose de très concret également.
En fait, il faut savoir que chez les peuples indiens d'Amazonie, les chamans, on appelle ça les yachaks là-bas, soignent, guérissent en chantant. Et donc, ça se passe la nuit, dans l'obscurité, et ils chantent durant une bonne partie de la nuit. Et donc, ce sont des gens qui connaissent des centaines de chants, qui sont en fait les chants de la nature, parce que pour eux, tout chante. Les arbres, les fleurs, les montagnes, les animaux, tout a son chant, un chant spirituel, hein, un chant qu'ils perçoivent en cérémonie. Et il y a un chant particulier extrêmement important, du moins dans le peuple où j'étais, qui s'appelle le chant de la fleur, qui est le chant qui soigne la mélancolie et la dépression. Et ce chant est au cœur du film.
D'accord. Alors effectivement, donc vous nous montrez à un moment donné une cérémonie chamanique, hein, dont vous allez peut-être nous dire un mot. Mais en même temps, Jacques Deschamps, ce n'est pas un film dédié entièrement à des questions philosophiques ou spirituelles, bien qu'elles imprègnent cette histoire du début à la fin. C'est aussi une histoire politique, en fait, la lutte de ces Indiens contre les compagnies pétrolières.
Oui, c'est plus terrible que jamais, parce qu'en fait, il faut savoir que le pied de la cordillère des Andes, mais je parle dans tous les pays au pied de la cordillère des Andes, est une zone riche en pétrole. Et donc au début des années 70-80, on a découvert comment faire franchir au pétrole la cordillère des Andes et l'exploitation a pu commencer. Et donc là-bas, en Équateur, comme d'ailleurs dans tous les autres pays de la cordillère des Andes, l'exploitation pétrolière bat son plein avec des conséquences redoutables d'un point de vue social, d'un point de vue écologique et particulièrement pour les peuples indiens qui vivent dans la forêt, qui vivent toujours aujourd'hui dans la forêt.
Alors vous étiez sur place il y a un peu moins d'un an, je crois. Donc vous êtes arrivé au moment où une délégation de la Cour interaméricaine des droits de l'homme visitait effectivement donc Sarah Yacou. Donc il y a des procédures en cours encore maintenant. Tout n'est pas du tout terminé. Mais est-ce que ça marque, d'abord vous y étiez je crois spécialement pour ça, mais est-ce que ça marque quand même un tournant dans la lutte? On en arrive maintenant à des instruments juridiques. C'est un petit peu plus policé.
Je ne sais pas si c'est plus policé. Disons que c'est effectivement un moment historique extrêmement important pour le peuple de Sarah Yacou, puisque la Cour interaméricaine des droits de l'homme, hein, qui a juridiction sur tout le continent américain, est arrivée à Sarah Yacou. C'était pour la première fois dans l'histoire de la Cour qu'elle se déplaçait sur le territoire d'un peuple autochtone. Donc c'était vraiment, pour un petit peuple autochtone, je dirais, c'est quand même un très grand moment. Et le jugement qui était attendu avec beaucoup d'impatience s'est révélé largement favorable à Sarah Yacou. Et c'est donc, du point de vue de la jurisprudence, une avancée extrêmement importante. Mais ce qui ne veut pas dire que ça arrange les choses sur le terrain ni que c'est plus policé. Je crois que c'est pire et plus violent que jamais, en fait.
Alors, quand on parle d'une peuplade d'Amazonie, on a l'impression, on voit, hein, je dirais, des gens à moitié nus, avec des sarbacanes, etc. La réalité que nous voyons dans votre film, Jacques Deschamps, est très différente, même si cette dimension, je dirais, culturelle, traditionnelle, existe toujours. Mais enfin, ils sont habillés pratiquement comme vous et moi. Et par exemple, notamment, ils ont accès à Internet et ils ont réussi. Alors, on entre peut-être un petit peu aussi dans le travail que vous faites depuis de nombreuses années, Jacques Deschamps. Ils ont réussi à créer autour d'eux des courants de sympathie, des comités de soutien un petit peu partout dans le monde, dont un qui est particulièrement actif en Belgique, hein, qui s'appelle Frontières de Vie. On va peut-être en dire un mot. Alors, est-ce que, voilà, ils ont réussi, je dirais, l'alchimie parfaite de marier la tradition avec la modernité?
Je ne crois pas que même vous direz ça comme ça, c'est-à-dire que, bon, d'abord, rien n'est jamais parfait dans notre bas monde, pas plus chez eux que chez nous. Mais effectivement, c'est un peu surprenant et c'est très déconcertant quand on arrive là-bas pour la première fois, où on a vu beaucoup de reportages sur les Indiens en Amazonie, les Yanomami et tout ça. Et quand on arrive là, on dit non, on est dans un peuple qui nous ressemble un peu finalement, avec des vêtements contemporains, etc. Et on se dit, tiens, est-ce que c'est encore vraiment des Indiens? Et puis, quand on creuse un peu la question, oui, alors on s'aperçoit que c'est quand même un monde bien différent du nôtre et qui a encore des racines profondes. Alors c'est un mélange effectivement très étrange et puis qui est lent à apprivoiser, à appréhender, à comprendre, parce que c'est un mix très particulier et changeant et qui évolue entre tradition et modernité.
Alors ce courant de sympathie qu'ils ont réussi à créer avec la complicité active de quelques personnes en Occident, en Europe notamment, est-ce que c'est quelque chose qui est très important pour eux, qui est susceptible effectivement de faire la différence?
Oui, je crois que c'est totalement mais fondamental, enfin crucial. Ça, ils le vivent comme une condition de survie. Et c'est une des raisons, un jour ils m'ont expliqué, on serait très capable de s'enfoncer dans la forêt et de survivre par nous-mêmes. On n'a pas besoin de la modernité pour survivre. On pourrait franchement s'en passer. Mais nous savons, il est très clair pour nous que si on fait ça, un jour ou l'autre, le rouleau compresseur de la modernité nous roulera dessus. Et donc si on veut résister, nous devons d'une certaine façon composer avec ce monde moderne. On doit le comprendre et on doit parler avec son langage. Et c'est la raison pour laquelle ils nous connaissent bien. Quelqu'un comme José Gualinga, dont vous avez parlé tout à l'heure, a vécu 3 ans en Belgique. Il se fait qu'il a épousé une Belge qui passait en Amazonie quand elle était jeune coopérante. Donc il est venu voir la Belgique, il a compris comment on fonctionne, il connaît notre monde associatif, il connaît le Parlement européen, il connaît tout de nous. Il sait comment on pense, il sait comment on vit, il sait pourquoi on est comme ça. Il nous a scannés avec une précision, il nous connaît mieux que nous. Hein. Je pense qu'il est meilleur anthropologue que les nôtres, quoi. Et donc, sachant tout cela, ils ont défini une stratégie de sauvegarde qui est particulièrement créative, originale et qui fonctionne chez nous. Et notamment, leur projet de frontière de vie est quelque chose qui peut avoir un impact médiatique réellement puissant et qui peut réellement faire la différence. Enfin, c'est ma conviction.
Alors parlons-en justement de cette frontière de vie. Donc il s'agit véritablement d'une frontière physique, pas avec des barrières et des douaniers, avec autre chose, avec des arbres, avec des fleurs.
Voilà, ils nous ont annoncé ça début 2004. Ils venaient de mettre les pétroliers dehors suite à leur procès juridique. Et ils sont venus, José m'a dit, je voudrais bien venir avec mon père qui est chaman. Et on a un projet. Ils ont débarqué un beau jour ici en Belgique. Ils nous ont dit, voilà, on a gagné une bataille, mais on n'a pas gagné la guerre. Et on sait qu'un jour, ils reviendront. Là, il y a un procès qui va durer des années. Il sera peut-être favorable ou pas, on verra. Mais on sait qu'un jour, les pétroliers reviendront. On sait qu'ils auront affûté leurs armes, y compris juridiques. Et on sait que ce jour-là, ils vont nous rouler dessus, quoi. Et donc, on a, disons, 10 ans pour créer la différence, pour créer quelque chose qui va nous protéger. Et donc, nous avons imaginé de créer un projet, on va dire spectaculaire, quelque chose de puissant, qui va nous faire connaître dans le monde. Et ce projet consiste effectivement à planter des arbres à fleurs de couleur, ou plutôt des grands cercles d'arbres à fleurs de couleur au sein de la forêt, tout le long, sur le pourtour de leur territoire. Et donc ça fait à peu près un périmètre de 180 kilomètres. Et ça, c'est le projet de base, parce que maintenant, il a plutôt tendance à s'étendre. Et ils ont commencé à planter des arbres, ils les ont mis en pépinière, ils ont dû apprendre. Ils disaient, un Indien amazonien ne sait pas ce que c'est que de planter un arbre, il y en a 15 milliards autour d'eux. Donc ils ont appris à récolter les semences de ces arbres à fleurs, qui sont très rares en Amazonie, hein, qui sont des grands arbres à fleurs de couleur, mais vraiment, il y en a un sur des milliers. Et ils ont parvenu à les reproduire. Et ils vont les planter sur la frontière de leur territoire, sur des grands cercles. Ces arbres sont en train de pousser. Il y a 80 kilomètres de plantés au jour d'aujourd'hui. Les plantations ont commencé en 2004. Donc les premiers arbres, ils ont 9 ans. Il se pourrait que les premiers fleurissent. Ils ne savent pas très bien eux-mêmes le temps que ça va prendre. Et alors ces cercles vont devenir visibles du ciel. Et donc on va voir quelque chose de très surprenant sur des centaines de kilomètres. On va voir des grands cercles de couleurs qui vont apparaître comme les taches du jaguar au milieu de la forêt. Enfin, c'est un projet très, très particulier.
Alors, Jacques Deschamps, revenons un peu vers la dimension spirituelle. On a évoqué à plusieurs reprises ici les chamans, ceux qu'on appelle les Yatchouak. Vous voyez que j'ai bien appris ma leçon, je commence à parler la langue. Et on voit aussi une petite cérémonie dont vous nous donnez un aperçu. Des chamans prennent donc une substance qui est très connue quand même dans la littérature, hein, le ayahuasca. Alors, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais voilà, c'est une boisson à base de plantes qui est bien sûr hallucinogène. Est-ce que la dimension spirituelle, le fait de parler à des entités invisibles, hein, qui sont vraiment constitutifs de ces cultures-là, est-ce que c'est toujours très prégnant? Est-ce que ça continue à les structurer profondément?
En tout cas, à Sarayaku, qui est le peuple que moi je connais, ça existe toujours. C'est toujours fort. C'est quand même un tout petit peu fragilisé par le fait que cette société se modernise, s'occidentalise, que les jeunes vont à l'école, qu'ils sont attirés par la modernité. Et donc, il est en tout cas très difficile pour les Yatchak, c'est vrai, je pense, dans le monde entier, de trouver des apprentis. Aujourd'hui, les jeunes, ils s'engagent pas très facilement là-dedans. Bon, ici, en Occident, vous avez beaucoup de gens qui aimeraient bien devenir chamanes. Donc, les ateliers de chamanisme marchent assez bien. Mais je peux vous jurer que dans la forêt où ils savent ce que c'est, les jeunes, ils ont pas du tout envie de s'engager là-dedans parce que ils savent que c'est totalement redoutable et que c'est pas du tout le truc planant qu'on peut peut-être imaginer ici que c'est. En fait, c'est très dur, le métier de chaman. C'est un truc épouvantable. L'initiation de chaman, c'est un truc qui dure des années, qui est épouvantablement dur. Et donc, jusqu'à très longtemps, le vieux chaman qu'on voit, ou le vieux Yatchak qu'on voit dans le film, n'avait pas d'apprenti. Et c'était une bonne surprise pour moi quand j'ai été tourner le film. Ben, il y en avait un. Et j'ai pu le filmer. Et donc, c'est un apprenti qui est un jeune, qui tient depuis déjà plus d'une année. Et je pense qu'il va tenir. Oui, donc, ça, voilà. Ça, c'est assez encourageant. Mais c'est partout le savoir des chamans est menacé. Ça, il faut comprendre. On est vraiment à un moment charnière, dangereux. Il se pourrait que dans notre génération, un peu partout dans le monde, enfin les chamans pourraient disparaître, mais j'ai quand même l'impression qu'on est reparti dans l'autre sens, qu'il y a quand même des jeunes qui reviennent, je crois. En tout cas, Sarayaku, c'est comme ça.
Qu'est-ce qui les fait tenir alors? Qu'est-ce qui fait tenir le peuple de Sarayaku?
Je crois que c'est un amour profond de la forêt. C'est des peuples qui sont nés dans la forêt, qui ont vécu dans la forêt, qui vivent dans la forêt et qui considèrent que la terre, que la forêt est leur mère. Et ce n'est pas une métaphore, c'est-à-dire que pour la plupart des peuples indiens, la terre, c'est la terre mère. Et c'est vécu comme tel, c'est la mère. Et c'est donc un rapport charnel. Et ça, c'est tout terriblement puissant. Enfin, je veux dire, on ne peut pas accepter de laisser violer sa mère. Et c'est ce que font les compagnies occidentales. Et donc ça, c'est quelque chose qu'ils peuvent viscéralement, mais pas accepter, quoi. Parce qu'ils savent que c'est la fin de leur vie, la fin de leur culture, la fin de leurs rêves, la fin de leur dimension spirituelle, la fin de leur raison d'être en tant qu'être humain sur cette planète. C'est tout qui s'écroule. Et d'ailleurs, quand un peuple indien perd ça, il perd tout. Alors, il se retrouve dans les bidonvilles. Et c'est terrible, la vie des peuples indiens détruit par la civilisation, c'est quelque chose de redoutable qui fait très mal, quoi. Mais donc, il y a une puissance terrible, hein. Il y a une puissance de survie, une énergie incroyable, avec une dimension communautaire encore extrêmement puissante.
C'était donc le réalisateur Jacques Deschamps qui nous parlait de son dernier film documentaire, un film intitulé Le Chant de la Fleur et dont l'avant-première aura lieu à Liège ce mardi 24 septembre au cinéma Le Parc, en présence notamment de José Galingua, le président des Indiens Quichua de Sarayaku. Cette projection inaugure d'ailleurs une programmation qui verra ce film proposé à Bruxelles au cinéma Aventure, ainsi que dans plusieurs villes de Wallonie, dont par exemple Verviers, Malmedy et Mons. Toutes les dates se trouvent sur les sites internet de l'association Frontières de Vie et sur celui de Iota Productions.